Bien, chers amis, c'est un plaisir de prendre à nouveau la parole pour partager avec vous la parole du Seigneur dans le prolongement de ce beau culte à l'écoute de ces témoignages qui sont déjà en soi des prédications. On aurait presque pu passer directement au partage de la Sainte Cène et puis profiter d'un temps de convivialité plus prolongé autour d'eux, parce que le baptême est en soi vraiment une prédication gestuée, une prédication pleine. Et merci Seigneur. Mais afin que vous ne m'accusiez d'aucune paresse, allez vous dire, ça fait l'autre fois il nous a sorti le coup de « le Seigneur m'amène à changer mon message ». Aujourd'hui, il ne veut pas prêcher. Pourquoi on a un pasteur? J'aimerais partager quelques pensées à partir du chapitre 2 de Colossiens, les versets 6 à 15. Je voudrais partager ces pensées avec Jeanne, Jordan, mais également avec nous tous qui sommes sur ce chemin à la suite du Christ. Marchez en lui. Nous lisons la parole de Dieu. Oui, je me disais bien que j'avais un problème. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que j'ai du mal. Je vais demander, excusez-moi, on a un souci avec la chair. Vivement qu'on ait une chair qui donne un peu plus d'espace. La chair est faible, mais celle-ci, elle ne se laisse pas faire. Merci beaucoup. Ainsi donc, Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Prions encore, si vous le voulez bien. Seigneur, nous nous plaçons à tes pieds, sous l'autorité de ta parole, sous ton autorité. Permets que par ton Esprit Saint, nous puissions en saisir l'intelligence, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle nous garde en toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose que l'apôtre Paul rappelle au destinataire de cette lettre. L'apôtre Paul ne les a jamais vus. Pour cause, ce n'est pas lui qui a implanté l'église de Colosse, dans la région de la Turquie actuelle. Ces derniers ont été évangélisés par un compagnon de service de l'apôtre Paul, un bien-aimé frère que Paul qualifie de fidèle serviteur, un homme de foi, un homme de prière, qui s'appelle Épaphras. Épaphras aimait ses frères et sœurs en Christ. Épaphras aimait passer du temps à genoux pour confier chacun de ses frères, chacune de ses sœurs devant le Seigneur, jusqu'à ce que Christ soit parfaitement établi en chaque cœur. Épaphras agonisait dans l'intercession pour chacun et chacune qui était donné à l'Église du Christ. L'apôtre Paul lui a rendu un hommage remarquable dans ses lettres, à deux reprises au moins. Et c'est cet Épaphras éprouvé comme Paul qui lui donne des nouvelles au sujet des chrétiens de Colosse alors qu'ils sont détenus en prison. Et ce que Épaphras raconte à Paul est une source de grande joie pour Paul. Paul ne les connaît pas. Paul ne les a pas rencontrés. Mais il se sent concerné parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous nous sentons concernés par d'autres églises? Est-ce que nous nous réjouissons quand nous apprenons que l'Évangile progresse dans une église? Quand nous apprenons que les autres se multiplient, peut-être même plus que nous, est-ce que nous nous réjouissons ou est-ce que nous disons « Ouh là 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 là, ça c'est plus l'église, c'est un troupeau de 1000 vaches, c'est une méga church. » Est-ce que nous nous réjouissons quand nous recevons les nouvelles de portes ouvertes qui nous parlent de la persévérance des chrétiens persécutés à cause de leur foi, des chrétiens dans l'ombre? Est-ce que nous nous réjouissons lorsque nous entendons des personnes nous dire qu'elles visitent les prisonniers et voient des conversions dans les prisons? Nous devons avoir, frères et sœurs, alors que nous étudions la thématique du royaume de Dieu, une bonne théologie de l'Église locale, certes, mais une vision théologique du royaume de Dieu, plus large. Il faut ouvrir. Et Paul avait ça sur le cœur. Et qu'est-ce qui l'a réjoui? Il a appris, nous le dit au chapitre 1, verset 4, qu'ils ont accueilli la parole de l'Évangile avec foi et ils ont reconnu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Est-ce que c'est une source de joie pour toi, suffisante, de venir dans une église aujourd'hui en 2024 et d'écouter Jeanne, Jordan dire « J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ ». J'ai reçu le plus beau don qui puisse exister. Est-ce que tu crois que c'est vraiment digne d'être une source profonde de joie, même si tu ne les connais pas? Ou alors, est-ce que tu vas rester en disant, est-ce qu'ils ne sont pas manipulés? Ah, mais je comprends. Ah oui, c'est lui le pasteur, il est grand, il est black. Est-ce que ce n'est pas un gourou? Qui sont ces gens qu'ils ont cités? Pourquoi on doit leur faire la préparation? Pourquoi ils doivent passer par un parcours? Mais qu'est-ce que le pasteur a fait? Il vient juste te baptiser, c'est le grand chef alors. En fait, c'est lui qui tire les ficelles. Non, non, ne boudons pas notre joie. Fredou nous l'a dit, notre président de l'association Église nous a rappelé depuis sa danse dans le ciel et sa danse encore et ça dansera encore. J'avais le désir d'inviter quelqu'un à se faire baptiser aujourd'hui, à prendre ce tournant. Je trouve que c'est dommage qu'on gâte autant d'eau. Mais le culte n'est pas fini. Laissez ça cheminer. Je l'ai vécu plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Ça n'ébranle pas ma théologie. La deuxième bonne nouvelle pour laquelle Paul se réjouit, c'est des conséquences de l'Évangile dans leur cœur. Paul a appris non seulement qu'ils ont accueilli l'Évangile avec foi, qu'ils ont professé avec leur bouche que Jésus est Sauveur et Seigneur, mais Paul a le témoignage qu'ils ont un ardent amour les uns pour les autres. Ils ont un ardent amour les uns pour les autres. Il dit qu'il a appris leur charité pour tous les saints. Vous voulez reconnaître une église chrétienne en bonne santé? Eh bien voilà, l'Écriture nous donne un critère. Vous voulez prendre la température d'une église chrétienne en bonne santé, quelle que soit sa dénomination, voilà un bon critère, même deux bons critères objectifs. Ce n'est pas si on a chanté en fa dièse. Ce n'est pas si on a joué les chants que vous aimez. Ce n'est pas si on a prié dans le style qui vous convient. Ça a sa place, ça a son importance toute subjective. Mais l'apôtre Paul nous donne là deux repères importants. En sortant, demandez-vous, est-ce que j'ai entendu parler de Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai entendu ce que Jésus a fait pour le monde dans cette église ? Est-ce que je peux repartir avec une parole qui m'aide à comprendre mieux Jésus-Christ ? Premier critère. Ce n'est pas une question de « c'est pas mon style, c'est mon style, ça vraiment... » Ce n'est pas ça l'essentiel. Là, on est en périphérie du sujet. Deuxième critère. Est-ce qu'ils s'aiment les uns les autres ? Est-ce que j'ai vu l'agapé, l'amour divin en eux ? Parce que Jésus a dit, à ceux-là, ils vous reconnaîtront. Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples à quoi ? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et Paul, quand il reçoit ces nouvelles, il dit à son ami Epaphras, « Ouah, bénissons le Seigneur. » Ils se mettent à louer Dieu pour ce qu'ils entendent. Ils se mettent à louer le Seigneur. Si vous lisez le chapitre 1 de Colossiens, vous pleurez parce que la louange est si belle et si élevée. Ils voient le Christ en gloire. Ils disent, il est la plénitude, l'image parfaite, le prototokos, le premier-né de toute la création. Toute la plénitude de Dieu est en lui. Waouh, ça c'est de la louange. Centré sur Jésus. Sur la plénitude de l'amour de Dieu manifesté en lui. Une louange qui t'ouvre les yeux sur le statut de Jésus, sur sa suprême dignité. Une louange qui te fait tomber à genoux pour adorer Jésus, pour tant de personnes qu'il sauve. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont dans ce ministère. Ils le font déjà, mais on veut les encourager à aller toujours plus loin, vers une louange qui ne s'adapte pas simplement à l'air du temps, mais qui reste centré sur Jésus-Christ. Merci Olivier pour la louange de ce matin avec toute l'équipe. Merci aux uns et aux autres. La louange nous aide à rester centré sur Jésus-Christ. Qu'il est important, frères et sœurs, de rappeler ces repères fondamentaux. Qu'il est important d'encourager et de soutenir spirituellement celles et ceux qui acceptent la parole de l'Évangile. Et c'est pour les encourager, même s'ils ne les connaissaient pas, à poursuivre sur cette voie de progrès en progrès que l'apôtre Paul leur adresse un certain nombre d'exhortations dans ce chapitre 2. Premièrement, il a dit de faire un peu du sport, marcher en lui. L'expression est un peu curieuse. Si vous voulez marcher en moi, vous risquez d'avoir des problèmes. Et si vous voulez marcher avec moi, c'est autre chose. Donc l'apôtre Paul peut dire marcher en lui. On marche en quelqu'un. Si ma maman, qui était instite par ailleurs, corrigeait la copie de Paul, elle n'aurait pas compris, elle aurait dit, mais point d'interrogation, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Pourtant, Paul a tout juste. Et pourquoi il a juste ? Parce que Jésus s'est présenté dans Jean 14, 6. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, pas un chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Donc je peux marcher en lui. Il est le chemin. Il est le chemin. Mais marcher en lui est une image. L'image de la marche, c'est une image biblique. Et nous oublions le privilège que c'est de marcher, même physiquement. Nous oublions le privilège. Nous oublions le processus psychomoteur qui a été enclenché, toutes les étapes que nous avons dû traverser. En fait, marcher est un apprentissage. Vous me comprenez ? Vous êtes d'accord avec ? Marcher est un apprentissage. Dieu m'a fait la grâce d'accueillir 4 enfants. Et j'ai vu chacun marcher à son rythme. Chacun marcher en son temps. Mais je les ai vus avec mon épouse. Aller passer les bras essayer d'apprendre à s'asseoir. Une sorte de gros boudin là, comme ça, qu'on met pour les caler, pour pas qu'ils se fassent mal au dos. Puis vous avez l'impression que leur tête pèse le poids de la lune. Voilà. Après, ils y arrivent. Et puis ils sont stimulés, et puis ils regardent, c'est déjà des explorateurs en herbe. Puis arrive un moment où ils doivent faire un ensemble d'opérations intellectuelles, très complexes, avec le cerveau, pour commencer à se mouvoir. Mais se mouvoir, ce n'est pas encore marcher. Le chrétien peut être dans la mouvance. Il peut être dans l'agitation. Il peut bouger, mais est-ce qu'il marche ? Es-tu un chrétien dans la mouvance ? Es-tu un chrétien qui bouge ? Ou es-tu un chrétien qui marche en lui ? Il y a une différence. Je les ai tous vus gigoter, mes enfants, mais ils ne marchaient pas encore. Je les ai vus bouger, babiller, mais ils ne marchaient pas encore. Mais ces étapes étaient importantes. Le problème, ce n'est pas d'être en mouvance ou en mouvement. La question, c'est est-ce que tu veux rester juste au stade de l'agitation ? Et après, ils vont s'allonger. Alors certains sont spécialistes, hein, ils sont créatifs. Ils mettent son pied là, je ne sais pas comment, il avance sur les fesses. Vous avez vu ces drôles d'enfants qui refusent d'aller à quatre pattes, mais qui vont sur les fesses. Peu importe, il a trouvé une manière de se déplacer. Et puis d'autres vont être sur le ventre. C'est les bébés nageurs. Mais au sec. Comme ça, le brushing est toujours impeccable. Et puis après, à quatre pattes. Et les parents sont fiers. Et la mémoire du téléphone est saturée parce qu'ils ont pris les photos toute la journée. Et puis après, il se lève, il commence à s'agripper à un petit truc, il pousse sur les jambes. Quand il comprend comment ça marche, il se cramponne, il se fait peur, exprès. Il regarde les parents. Ça t'inquiète, hein? Ça t'inquiète, hein? Après, il lâche, et puis il te regarde. Il dit, encourage-moi. Puis vas-y, et puis un pas. C'est bien. Chez moi au Cameroun, on dit dja, dja, dja. Et il reste comme ça. Et puis pouf, sur les fesses. On dit dja, dja, ça veut dire tiens déjà debout. Et puis après, un pas, un deuxième pas, un troisième pas. Ça y est, il marche. Et là, les parents entrent dans une autre forme d'inquiétude. La chute redoutable. Et un jour, j'ai vu mon fils glisser sur le parquet magnifiquement ciré et paf! La première dent qui passe par la lèvre inférieure. Je dis, ouais, il marche. Peut-être un peu trop vite. La coordination, ce n'est pas encore tout à fait ça. Comprendre le risque, ce n'est pas encore tout à fait ça. On se dit, il va se faire une mauvaise chute. On se fait du mauvais sang, on se dit, il va se pincer les doigts dans les tiroirs, dans les portes, etc. Marcher est un apprentissage. Et si je passe par cette allégorie, ce n'est pas parce que je pense que l'apôtre Paul l'avait en tête. Je ne pense pas que c'est le texte qu'il a en tête, on va y venir. Mais je pense que nous devons comprendre que vivre en chrétien, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est un apprentissage. Nous faisons souvent comme si être chrétien, c'est juste quelque chose où je me connecte tout seul et j'ai tout compris. Non. Et qui dit apprentissage dit je ne sais pas ce que vous avez en tête, hein, donc osez parler comme moi. Hein. Dit erreur, oui, c'est vrai. Dit maître, oui. Dit chute, les étapes, etc. Tout ça est juste. Mais avant tout, qui dit apprentissage, dit transmission. Transmission. Ça, c'est un mot important et un verbe, transmettre. Et l'Écriture nous transmet les conseils du Seigneur, les recommandations du Seigneur, tout ce que le Seigneur veut nous donner pour nous aider et nous accompagner et soutenir pas après pas la marche à laquelle il nous invite. il est bien de poser les bons fondements. Il est bien de grandir spirituellement, étape par étape, de ne pas mimer les autres, de ne pas singer qui ne sont pas, mais d'apprendre du Christ, d'apprendre de la communauté du Christ, d'apprendre des bien-aimés frères et sœurs, étape après étape. Qui dit apprentissage dit aussi une posture humble d'enseigner, d'enseignable, se laisser enseigner, se mettre au pied du Seigneur, mais se mettre aussi au pied de ceux à qui le Seigneur confie ce ministère de l'enseignement. Toute proportion gardée avec l'image de l'enfant sur laquelle je me suis un peu arrêté, la Bible est porteuse de la mémoire de cette transmission. Et je pense que Paul, l'apôtre Paul, a peut-être en tête le psaume 1. Le psaume 1 nous parle de la marche pour illustrer le cheminement chrétien avec deux voies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc., etc. Donc dans cet apprentissage, il nous dit que marcher selon la volonté de Dieu, ben, il y a des écueils. Il y aura des écueils à éviter. Il y a des chausse-trappes dans lesquelles on peut tomber. Et ici, il nous dit, ne soyez pas naïfs. Ne vous laissez pas influencer par certains discours. Le méchant, c'est celui qui ne se réfère pas au respect de Dieu, à la parole de Dieu. Ce n'est pas un jugement ici d'abord moral, c'est une question de statut, de sa position vis-à-vis de Dieu. Il dit attention à la compagnie des méchants, attention aux railleries des moqueurs. Je me suis demandé, mais tout ça, ça relève du langage. Je me suis dit, mais il avait tout compris déjà l'apôtre Paul, en ayant ce texte en tête. Ce qui influence beaucoup notre vie, c'est le langage. Depuis notre vie intra-utérine, c'est ce que nous entendons. C'est la façon dont on nous parle. C'est ce que nous intériorisons profondément. Quel est le discours qui est en train de mouler ma vie? Quel est le discours qui est en train d'influencer ma vie? Il serait bien naïf de penser que rien ne vous influence. Il serait naïf de penser qu'aucune relation ne vous influence. Pour l'apôtre Paul, il ne s'agit pas de dire aux chrétiens de vivre dans l'obsession de la pureté et dans la peur d'être contaminé. Mais il s'agit de ne pas être naïf. Il a écrit d'ailleurs aux Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand j'étais tout petit, je pensais que c'était une citation d'un célèbre intellectuel français. Mais un jour, je suis tombé là-dessus dans la Bible. Ah, c'est de la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sur ce cheminement jeune chrétien, sur ce cheminement chrétien au long cours, il y a encore du travail à faire. Attention au langage, au discours qui façonne ma représentation du monde et qui ne va peut-être pas m'encourager dans le sens d'une marche selon le cœur de Dieu. Nous passons, les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps, les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps de conversation, peut-être même des personnes que nous ne connaissons pas. Nous sommes dans un temps très digitalisé où nous passons 4 heures devant les écrans et on donne la parole à des gens qui ne connaissent pas nos vies. Et on se met à rêver leur vie plutôt que de vivre la nôtre. Tout ce temps, tout ce langage culturel impacte et influence nos vies. Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir si on est sous influence, c'est d'ailleurs le titre d'un film, c'est de savoir quelle influence. Qu'est-ce qui influence ma vie? Et est-ce que ça m'oriente vers un cheminement positif? Un pasteur baptiste du nom de John Bunyan a été rendu célèbre par un best-seller que j'ai lu quand j'étais jeune converti qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Et on a fait une édition pour les plus jeunes, « Le voyage du petit pèlerin ». Et il met en scène la marche de l'auteur principal fidèle, il porte bien son nom, on est dans une allégorie, qui quitte les souillures du monde pour aller vers la cité céleste. Et sur ce chemin, il va rencontrer beaucoup d'autres protagonistes qui sont en fait les différents défis qui vont susciter sa foi. Il va rencontrer orgueil de la vie. Il va rencontrer luxure. Il va rencontrer vanité. Il va rencontrer découragement. Il va rencontrer corruption. Il va rencontrer faux prophètes, etc. Mais le but, c'est que par sa foi et l'armure de sa foi, qu'il puisse marcher bon, tenir bon et entrer dans la joie de son Père. Et c'est une grâce. Il a eu besoin d'encouragement. Le psaume 1, dans sa deuxième partie, dit que le chrétien ne marche pas à l'envers. Il ne marche pas sur la tête. Il a la tête au ciel, certes, mais il a bien les pieds sur la terre. Il a dans sa tête, dans sa pensée, sous ses yeux, l'exemple de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Colosse à marcher en lui, en Jésus-Christ, en ayant la tête dans le ciel. Il utilise une deuxième image pour enfoncer le clou. Étant enraciné comme cet arbre-là, suivant monsieur à la slide, merci beaucoup, en lui. Son image de la marche se télescope avec l'image de l'enracinement qui évoque plutôt l'implantation d'un arbre. Quand vous regardez le système racinaire des arbres, c'est d'une complexité incroyable, d'une intelligence que seul Dieu connaît. C'est extraordinaire leur adaptation, c'est extraordinaire leur force vitale d'aller chercher ce dont l'arbre a besoin là où il faut. C'est incroyable. J'ai regardé un documentaire sur le système racinaire, c'est bluffant, c'est incroyable. Il y a une intelligence qui mime les neurones du cerveau. Un langage qui mime notre langage pour aller vers les vitalités et donner à l'arbre juste ce qu'il faut. L'apôtre Paul n'avait pas vu le même documentaire, donc il n'a pas ça en tête. Ce qu'il a en tête, je pense, c'est le psaume 1. Celui qui veut marcher en Jésus, il va être comme cet arbre planté au bord d'un courant d'eau qui plonge ses racines dans un bon terreau. L'eau symbolise la vie. La vie profonde, la vie de l'esprit en particulier. Notre terreau à nous, notre sol où nous nous enracinons, c'est l'Écriture, ça nous a été rappelé, c'est la parole de Dieu. Puisqu'il dit, il médite la loi du Seigneur jour et nuit. Il s'en délecte. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas juste un exercice. C'est son plaisir. Il dit, j'aime ta loi. J'aime ta parole, Seigneur. Elle m'éclaire, elle éclaire mon sentier. J'aime ta parole, Seigneur, elle me nourrit. J'aime ta parole, Seigneur, elle m'encourage. J'aime ta parole, Seigneur, elle me résiste parfois, elle me reprend. J'aime ta parole, Seigneur. Et il y a une promesse pour ceux qui aiment la rumination de la parole du Seigneur, la méditation de la parole du Seigneur. Cette promesse, c'est qu'il porte du fruit. Il porte du fruit. Oserais-je dire qu'on reconnaît ceux qui ruminent la parole aux fruits qu'ils portent dans leur vie. Le Christ nous a mis en garde, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur !» Il a dit « Regardez aux fruits qu'ils portent. » Le Christ avait une sagesse toute pratique. Quand il a vu un figuier, en saison de figues qui ne portait pas de figues, il a dit « Mon ami, pourquoi tu occupes le sol ? On va t'enlever, on va mettre une autre, peut-être lui va donner du fruit. » Nous sommes faits pour la fécondité. Nous sommes appelés à être porteurs de vie. Et le fruit de l'esprit est abondant dans Galates chapitre 5, verset 22. Il me reste 5 minutes, donc je n'aurai pas le temps pour développer. Marcher en Christ, s'enraciner dans sa parole, vivifié par l'Esprit Saint, fait de nous des vies porteuses de fruits. Et nous devenons tous ensemble une communauté qui porte du fruit, le fruit de l'Esprit Saint. Troisième indice. Ils ont prêché l'évangile du Christ. Ils s'aiment les uns les autres. Est-ce que je vois le fruit de l'esprit à l'œuvre dans cette communauté? Quand vous cherchez les églises, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne cherchez pas avec des critères qui ne sont pas sérieux. Beaucoup cherchent avec des critères de façade. Voilà les critères, les balises objectives. Est-ce que je vois des vies transformées? Est-ce que je vois des gens manifester le fruit de l'Esprit de Dieu? L'amour, la patience, la modération, la joie, la paix, la sanctification, la pureté. Est-ce que le fait de fréquenter cette assemblée les fait grandir dans ce domaine-là? Oh, ce n'est pas le chiffre qui fait ça. Ce n'est pas le nombre qui fait ça. On peut être 5, et on le vit. Et on peut être 1000 et on ne vit pas ça. Soyons attentifs, mes frères et sœurs. Encourageons-nous, ne nous trompons pas de critères. Et alors que la parole de Dieu est présentée comme un arbre, une autre image s'impose à Paul. C'est l'image du roc. Là, je saute, j'enjambe rapidement. Chacune de ces images a sa fonction. Et avec l'image du roc, ce n'est plus l'enracinement et la croissance verticale qui est présentée, mais c'est la stabilité, la solidité. Nous sommes dans un monde malade de très grande vitesse. Nous sommes dans un monde du zapping. Nous sommes dans un monde de la consommation et on jette. Nous sommes dans un monde des mobilités. Le Christ nous enseigne la stabilité. C'est un signe de maturité spirituelle, d'apprendre la stabilité. Parce que si vous êtes stable sur le Christ, on peut être stable sur le Christ en théorie, en général, mais très instable vis-à-vis des communautés du Christ. On va de communauté en communauté. On prend ici, comme le restaurant à la carte. On prend ici parce que là-bas, on prie pour les guérisons. On revient ici parce qu'il y a la prédication. On part là-bas parce que là-bas, on chante d'une certaine manière. On va là-bas parce que... Non. Il y a une stabilité en Christ. Étant fondé sur lui. Cette stabilité, certes, nous élargit aux autres. Il ne s'agit pas de ne pas être en communion avec les autres églises, encore une fois de plus. Mais il s'agit de dire, attention. Notre culture nous a préparés aux mobilités, mais que cette mobilité ne devienne pas quelque chose qui fait qu'on n'a plus le temps de se construire sur le bon fondement. Quand j'étais enfant, on nous disait, le sage sur le roc a bâti sa maison. Le fou sur les sables mouvants l'a bâti. Et les deux ont eu la tempête. Il y a une maison qui a résisté et l'autre n'a pas tenu. Et souvent, on se demande, mais comment se fait-il que cette personne qui a prié avec nous, qui a été avec nous, ne soit plus là? Pas parce qu'elle est partie dans une autre assemblée chrétienne. Le témoignage qui vient de nous être donné nous montre que ce n'est pas ça le problème. On peut déménager. Moi aussi, j'ai déménagé. J'ai quitté plusieurs assemblées. Ce n'est pas ça la question. Mais comment se fait-il que ces personnes renient la foi, tournent le dos à l'évangile? Et l'apôtre Paul dit, ça fait mal. C'est troublant. Mais la vérité, c'est que par cette attitude, ils démontrent qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pas nous là, hein. L'apôtre Paul parle de la communion apostolique. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas sur le bon fondement. Et il nous met en garde chacun. Prenez garde à la façon dont vous construisez sur le roc. J'aimerais conclure avec un point qui me semble important. Par où j'avais commencé, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que Jésus vous suffit? Est-ce que Jésus vous suffit vraiment? Vous le croyez vraiment? Est-ce que Jésus vous suffit vraiment? Est-ce que Jésus vous suffit vraiment? Alors je vous invite à relire ce passage de Colossiens 2. Quand l'apôtre Paul dit « Nous avons tout en lui ». Tout en lui. Quand Jésus ne nous suffit plus, nous cherchons ailleurs. Et les Colossiens étaient troublés, parce qu'alors qu'ils avaient bien commencé, quelques-uns sont venus dire, « Ah, vous, il n'y a que ça? Il n'y a que Jésus? Oh, c'est dommage. Mais nous, on parle aux anges. Nous, on connaît les autorités. Nous, on a autorité sur les dominations. Nous, ceci, nous, cela. » Et ça les a troublés. Ils se sont dit, « Ah, alors Jésus ne suffit plus. » L'apôtre Paul a entendu aussi ça. Ça l'a attristé. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez le pardon pleinement en lui. Il a exposé à la croix Satan et il a déchiré l'acte de condamnation. Vous avez la rémission des péchés pleinement en lui. Vous avez l'amour de Dieu pleinement en lui. Vous avez la joie d'être appelé enfant de Dieu pleinement en lui. Vous avez le même Saint-Esprit qui a été donné à toutes celles et ceux qui croient en Jésus, pleinement. Le même qui donne la foi de l'évangélisation à Gérard, le même qui me donne la capacité d'enseigner, le même qui donne la louange aux uns et aux autres. Nous avons tout, pleinement, pleinement. Alors, quand tu es frustré dans l'Église, et ça peut arriver, méfie-toi de tes premières réactions face à la frustration. Est-ce que cette frustration va aller jusqu'à remettre la plénitude du Christ en toi? quand on est pleinement satisfait en Jésus-Christ, un autre signe de maturité, c'est qu'on gère mieux la frustration. On gère mieux et on supporte mieux la frustration. Et l'Église est un lieu incroyable de frustration. Je peux vous le dire en tant que pasteur, mais en tant que chrétien tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette frustration m'a tellement fait grandir. Et je nous souhaite de grandir dans une capacité à gérer nos frustrations. Réjouissons-nous, Fredou vient prendre la parole, nous avons tout pleinement en Jésus. Amen.